Celui qui entre pape au conclave en sort cardinal, dicton romain à propos des élections pontificales.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La désignation du pape est bien sûr un des moments importants de l'histoire de l'Église. Mais pendant près d'un millénaire, la désignation s'est faite sur des bases qui, effectivement, pouvaient à terme poser problème. Au tout début, c'est sans doute la communauté chrétienne relativement étroite qui a pu désigner les premiers chefs de la communauté à Rome. Puis progressivement, en particulier au 3e, 4e, 5e siècle, on a mis en place un système où à la fois le clergé de la ville et la population, le peuple romain, en tout cas le peuple chrétien, désignait celui qui apparaissait comme le plus apte, le plus digne d'être le pasteur du troupeau chrétien dans la ville éternelle. Le problème, c'est qu'avec ce système, d'abord, la ville devenant chrétienne en totalité, la population, même si elle avait diminué, était tout de même importante. Qui plus est, c'est infiltrer un troisième acteur à côté du clergé et du peuple romain, ce sont les barons romains, l'aristocratie, qui a voulu peser elle aussi, et il est indéniable qu'au 9e, 10e siècle, début du 11e siècle, ces puissants barons qui essayent de contrôler le pouvoir pontifical jouent un rôle pour le moins néfaste. Donc il a fallu, à partir du 11e siècle, c'est-à-dire de la période de la réforme grégorienne, envisager des règles qui puissent être véritablement claires et qui réservent à un petit nombre d'ecclésiastiques la désignation du pontife. Le premier décret qui va dans ce sens est celui de Nicolas II en 1059. Ce décret indique que l'élection du pape est réservée aux seuls cardinaux, c'est-à-dire aux seuls proches, aux seuls conseillers du souverain pontife. Et une fois la désignation faite par les cardinaux, elle est confirmée par l'acclamation du clergé et du peuple de Rome. Finalement, cette confirmation, et sans qu'on en ait pleinement conscience aujourd'hui, on la retrouve un peu avec la présentation de l'élu. Aujourd'hui, le nouveau pape se présente au balcon de Saint-Pierre et la foule l'acclame. Alors évidemment, elle n'a pas le sentiment de l'acclamer pour confirmer l'élection. Et pourtant, c'était au XIe siècle l'idée que l'acclamation du clergé et du peuple venait confirmer le choix des cardinaux. Les cardinaux, d'ailleurs, il y a eu une évolution d'ailleurs dans leur rôle, puisque récemment, en 1970, Paul VI a exclu du Sacré Collège, comme électeurs, les cardinaux de plus de 80 ans, alors qu'auparavant, des cardinaux de 85-90 ans pouvaient participer au scrutin. Deuxième moment où on a précisé l'élection pontificale, c'est en 1179. Le canon numéro 1 du troisième concile du Latran, qui avait été convoqué par le pape Alexandre III, prévoit que le pontife sera élu avec une majorité des deux tiers. Cela veut dire qu'il faut une majorité claire. Le chef de l'Église ne peut pas être élu à 51%, ce qui fonctionne dans une majorité politique. Mais pour que son autorité soit pleinement et clairement reconnue, eh bien, les deux tiers faisaient que finalement, la majorité était imposante. Et évidemment, souvent, on dépassait d'ailleurs ces deux tiers. Donc, vous l'avez compris, les cardinaux sont les seuls électeurs à partir de 1059. Et à partir de 1179, on précise bien qu'il faut une majorité claire. Mais l'affaire va se compliquer au XIIIe siècle, parce que on ne précisait pas la durée du conclave. La durée du conclave n'est pas précisée. Or, entre novembre 1268 et septembre 1271, eh bien, après la mort de Clément XIV, il y a un interrègne de presque 3 ans. où les cardinaux se voient, mais ne se décident jamais. Ils se dispersent, ils se retrouvent. Au grand scandale de la chrétienté, parce que finalement, pendant 3 ans, il n'y a pas de pape à la tête de la chrétienté. Aussi, quand le 1er septembre est élu Grégoire X, il décide rapidement, en 1274, de demander véritablement par la constitution apostolique Ubi Periculum qu'il y ait véritablement une règle de durée et d'organisation du conclave. Ainsi, l'élection aura lieu à partir du 10e jour qui suit le décès du pape. Ce qui veut dire d'ailleurs que pour l'époque médiévale et pendant très très longtemps, il fallait que les cardinaux soient très proches du pontife. Parce que 10 jours, si un cardinal se trouve, mettons, en Angleterre, il est bien évident qu'il n'aura jamais l'occasion et le temps de revenir en Italie pour participer à l'élection. Cette question de temps, d'ailleurs, de délai après la mort du pontife, sera augmentée. Pie XI va porter le délai à 15 jours et Pie XII à 18 jours. Autre élément de la constitution de Grégoire X, l'élection doit avoir lieu là où le pontife est mort, ou à proximité. Ce qui fait d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, il y a des élections qui se sont tenues hors de Rome. Ainsi à Pérouse, en 1216, en 1292, en 1294, en 1305, à Viterbe, en 1261, en 1276, 1281, à Naples, en 1254 et 1294, et même à Lyon, en 1316, où le pape Jean XXII a été élu dans la primatiale Saint-Jean. Et puis évidemment, au XIVe siècle, les élections ont lieu à Avignon. Le dernier conclave qui ne s'est pas déroulé à Rome a eu lieu à Venise en 1800 et il a vu l'élection du pape Pie VII. Mais pour la période contemporaine du XIXe et du XXe siècle, tous les papes sont morts à Rome. Le dernier qui n'est pas mort à Rome, c'est Pie VI, puisqu'il est mort à Valence dans la Drôme. Mais tous les autres, tous ses successeurs jusqu'à aujourd'hui, sont décédés à Rome. Et donc, les élections ont lieu à Rome. On se retrouve aujourd'hui à la Sixtine, mais à vrai dire, au XIXe siècle, cela pouvait avoir lieu dans la chapelle Pauline ou dans la chapelle du palais du Quirinal. Ou même au XVe siècle, avant la construction de la Sixtine, c'était à l'église Santa Maria sopra Minerva qu'il y a eu 2 conclaves. Ces conclaves s'ouvrent de manière solennelle avec l'entrée des cardinaux qui chantent le Veni Creator. Important que le conclave doit avoir, c'est l'enfermement des cardinaux électeurs. D'où le nom conclave, qui vient de cum clavis, on les enferme à clé. Alors évidemment, on installe des dortoirs, un dortoir commun, puis à partir de 1351, en Avignon, des cellules individuelles pour qu'il y ait un peu, je dirais, d'intimité pour les divers cardinaux. La constitution apostolique de Jean-Paul II, le 22 février 1996, Universi Dominici Gregis, prévoit l'installation des cardinaux électeurs au couvent Sainte-Marthe, au sein du Vatican, pour passer les nuits et les repas. Et vous vous en souvenez sans doute, pour l'élection de 2005 et celle de 2013, c'est bien le couvent Sainte-Marthe qui a servi de lieu d'hospitalité pour le collège des cardinaux. Autre élément que je voudrais également souligner, c'est que normalement, il y a le secret d'élection, par prestation de serment sur les évangiles et sous peine d'excommunication. Alors, à vrai dire, ce secret des élections est plus ou moins bien respecté. Je veux dire par là que bien souvent, les vaticanistes savent finalement recomposer souvent les élections. Non pas que les cardinaux racontent du tout l'élection, mais en recoupant quelques témoignages, on peut parvenir même des fois à avoir exactement le nombre de voix qu'a pu avoir tel ou tel candidat. Ensuite, un dernier élément qui a disparu des conclaves, et c'est plutôt heureux, c'est la question du droit d'exclusive. En effet, à partir du XVIe siècle, sans que rien soit écrit, avait commencé à prendre corps l'idée que les grandes monarchies catholiques pouvaient avoir un droit de veto sur tel ou tel cardinal. Ainsi, l'Espagne, la France, l'Empire des Habsbourg, pouvait poser un droit d'exclusive sur tel ou tel cardinal. La dernière fois que le droit d'exclusive a été utilisé, c'est en 1903, où le cardinal archevêque de Cracovie, au nom de François-Joseph, s'est levé en plein conclave pour signaler que son souverain et son gouvernement étaient hostiles à l'élection du cardinal Rampolla, jugé trop libéral et trop francophile. Ça avait provoqué un choc parmi les cardinaux, mais finalement on s'aperçoit que le cardinal Rampolla, qui était en tête, avait vu progressivement son nombre de voix diminuer, et finalement c'est le cardinal Sarto qui, patriarche de Venise, est élu, profitant de ce droit d'exclusive, mais tellement choqué que celui qui était devenu Pie X décida quelques semaines après son élection, par un document écrit, de supprimer toute intrusion d'État, y compris catholique.